Malgré leur vie dissipée, tout le groupe s'évertuait à commettre quelque chose d'impérissable pour répondre aux instances du savant catalan. C'était lui, avec son expérience d'ancien professeur de lettres classiques et sa réserve de livres rares, qui les avait mis à même de passer toute une nuit à chercher la 37e situation dramatique dans un village où personne n'avait plus intérêt ni possibilité d'aller au-delà de l'école primaire. Fasciné par la découverte de l'amitié, ahuri par les sortilèges d'un monde dont l'avait privé la mesquinerie de Fernanda, Aureliano délaissait le dépouillement des manuscrits au moment précis où ils commençaient à se révéler à lui comme étant des prophéties en vers chiffrés. Mais quand il put constater ultérieurement qu'il y avait un temps pour tout, sans qu'il fût nécessaire de renoncer au bordel, il retrouva le courage de retourner dans la chambre de Melquiades, décidé à ne pas faiblir dans son obstination, jusqu'à ce qu'il découvrît les dernières clés. Ce fut l'époque où Gaston commençait à attendre l'arrivée de l'aéroplane et où Amarante Ursula se trouvait si seule qu'un beau matin, elle fit irruption dans la chambre. « Hola, anthropophage !» lui dit-elle. « Te revoilà dans ta tanière !» Elle était irrésistible dans cette robe de son invention, avec l'un des longs colliers de vertèbres d'alose qu'elle fabriquait elle-même. Elle avait renoncé à la cordelette de soie, convaincue de la fidélité de son mari, et pour la première fois depuis son retour, paraissait disposer d'un moment de loisir. Aureliano n'aurait pas eu besoin de la voir pour savoir qu'elle était là. Elle s'accouda à sa table de travail, si proche et si désarmée qu'Aureliano put percevoir la profonde rumeur de ses os, et s'intéressa au parchemin. Essayant de surmonter son trouble, il rattrapa sa voix qui le quittait, sa vie qui s'en allait, sa mémoire qui se transformait en un polype fossilisé, et lui parla du destin lévitique du sanskrit, de la possibilité scientifique de voir le futur par transparence dans le temps, comme on peut voir à contre-jour ce qui est écrit au verso d'une feuille de papier, de la nécessité de chiffrer les prophéties pour qu'elles ne s'altèrent pas d'elles-mêmes, et des centuries de Nostradamus, et de la destruction de la Cantabrie annoncée par Saint Milan. Tout à coup, sans interrompre l'exposé, mu par une impulsion qui sommeillait en lui depuis ses origines, Aureliano posa la main sur la sienne, pensant que cette décision finale mettrait un terme à son naufrage. Cependant, elle lui saisit l'index avec la même innocence câline que dans leur enfance, où elle le fit si souvent, et le garda dans sa main tandis qu'il continuait de répondre à ses questions. Ils demeurèrent ainsi, unis par un index de glace qui ne transmettait rien, ni dans un sens ni dans l'autre, jusqu'à ce qu'elle s'éveillât de son rêve éphémère en se frappant le front. « Les fourmis !» s'écria-t-elle. Alors, elle oublia les manuscrits, gagna la porte sur un pas de danse et de là, envoya à Aureliano le même baiser du bout des doigts qu'elle avait adressé à son père l'après-midi où on l'envoya à Bruxelles. « Tu m'expliqueras plus tard !» lui dit-elle. « J'avais oublié qu'aujourd'hui, c'est le jour de jeter de la chaux sur les fourmilières !» Elle continua de venir dans la chambre à l'occasion, quand elle avait affaire dans les parages, et y restait quelques brèves minutes, cependant que son mari ne cessait de scruter le ciel. Abusé par ce changement, Aureliano resta désormais prendre ses repas en famille, ce qu'il ne faisait plus depuis les premiers mois du retour d'Amaranta Ursula. Gaston en fut content. Au cours des conversations d'après le dessert, qui se prolongeaient parfois pendant plus d'une heure, il se plaignait de ce que ses associés étaient en train de le tromper. Il lui avait annoncé le chargement de l'aéroplane sur un bateau qui n'arrivait pas, et, tandis que ses correspondants maritimes persistaient à affirmer qu'il n'arriverait jamais pour la simple raison qu'il ne figurait pas sur les listes des bâtiments à destination des Caraïbes, ses associés s'obstinaient à prétendre que l'expédition avait été correcte et allaient jusqu'à insinuer que Gaston pouvait fort bien leur mentir dans ses lettres. La correspondance atteignit un tel degré de suspicion réciproque que Gaston choisit de ne plus écrire et se mit à suggérer l'éventualité d'un voyage rapide à Bruxelles pour éclaircir la situation et s'en revenir avec l'aéroplane. Pourtant, le projet s'évanouit dès le moment qu'Amaranta Ursula eut réitéré sa ferme résolution de ne pas bouger de Macondo, même si elle devait rester sans mari. Les premiers temps, Aureliano partageait l'idée généralement répandue selon laquelle Gaston n'était qu'un imbécile à deux roues, et cela éveilla en lui un vague sentiment de pitié. Plus tard, quand il recueillit dans les bordels une information plus complète sur la nature des hommes, il pensa que la mansuétude de Gaston n'avait d'autre origine que sa passion sans bornes. Mais quand il le connut mieux, il se rendit compte que son véritable caractère était en contradiction avec son comportement soumis. et il en conçut une telle méfiance qu'il soupçonna l'attente de l'aéroplane de n'être autre chose qu'une bonne plaisanterie. Il se dit alors que Gaston n'était pas aussi bête qu'il en avait l'air, mais que c'était au contraire un homme d'une constance, d'une habileté et d'une patience infinie qui avait projeté de vaincre l'épouse en la lassant par une éternelle complaisance, en ne lui disant jamais non, en simulant une adhésion sans limite, en la laissant s'entortiller dans sa propre toile d'araignée, jusqu'au jour où elle ne pourrait plus endurer davantage l'ennui des illusions à portée de la main et où elle ferait elle-même leur valise pour s'en retourner en Europe. L'ancienne pitié d'Aureliano se changea en violente animosité. Le système de Gaston lui apparut si pervers, mais en même temps si efficace, qu'il osa en avertir Amaranta Ursula. Mais elle se moqua de sa méfiance maladive, sans même discerner la déchirante charge d'amour, d'incertitude et de jalousie qu'elle contenait. Il ne lui était jamais venu à l'idée qu'elle pouvait éveiller en Aureliano quelque chose de plus qu'une affection fraternelle, jusqu'au jour où elle se piqua un doigt en voulant ouvrir une boîte de pêche et qu'il se précipita pour sucer son sang avec une avidité et une dévotion qui lui donnèrent la chair de poule. « Aureliano !» s'écria-t-elle avec un rire inquiet. « Tu as trop d'idées derrière la tête pour faire un bon vampire !» Alors Aureliano s'emporta. Tout en déposant des petits baisers orphelins dans le creux de sa main blessée, il ouvrit les orifices les plus secrets de son cœur et laissa sortir une interminable tripaille en décomposition, le terrible animal parasitaire qu'il avait couvé durant son martyre. Il lui raconta comment il se levait au milieu de la nuit pour pleurer de rage et d'abandon sur le linge intime qu'elle laissait assécher dans les bains. Il lui raconta avec quelle impatience fébrile il demandait à Nigromanta de criailler comme une chatte et de lui sangloter dans l'oreille « Gaston, Gaston, Gaston !» Et avec quelle ruse il faisait main basse sur ses flacons de parfum pour pouvoir en dénicher la trace dans le cou des gamines qui se mettaient au lit pour ne plus avoir faim. Épouvantée par la frénésie d'un tel épanchement, Amaranta Ursula referma ses doigts, qui se rétractèrent comme un mollusque, jusqu'à ce que sa main blessée, délivrée de toute douleur et de tout vestige de miséricorde, ne fût plus qu'un nœud d'émeraude, de topaze et d'osselet de pierre insensible. « Sale brute !» lança-t-elle comme en crachant. « Je m'en vais en Belgique par le premier bateau !» Un de ces après-midi-là, Alvaro était arrivé à la librairie du savant catalan en annonçant à grands cris sa dernière trouvaille, un bordel zoologique. Il s'appelait « L'Enfant d'or » et c'était une immense salle ouverte à tous les vents, par où se promenaient à leur guise pas moins de 200 butors qui donnaient l'heure en poussant un gloussement à se boucher les oreilles. Dans les enclos entourés de fils de fer qui cernaient la piste de danse, et parmi de grands camélias amazoniens, on pouvait voir des hérons multicolores, des caïmans engraissés comme des cochons, des serpents à 12 sonnettes et une tortue à la carapace dorée qui faisait des plongeons dans un minuscule océan artificiel. Il y avait un chien blanc, doux et pédéraste, qui néanmoins rendait des services comme inséminateur pour qu'on lui donnât à manger. L'air y avait une densité toute nouvelle, comme si on finissait juste de l'inventer, et les belles mulâtresses qui attendaient sans espoir entre les pétales sanglants et les disques passés de mode connaissaient des offices de l'amour que l'homme avait oublié d'emporter du paradis terrestre. La première nuit où le groupe s'en vint rendre visite à cette serre à illusions, la splendide et taciturne doyenne, qui surveillait les entrées dans un fauteuil à bascule en rotin, sentit le temps revenir à ses sources premières quand elle découvrit parmi les 5 nouveaux arrivants un homme aux os saillants, au teint bistre, aux pommettes tartares, marqué depuis le commencement du monde et à jamais par la vérole de la solitude. « Aïe !» soupira-t-elle. « Aureliano !» Elle était en train de revoir le colonel Aureliano Buendia, comme elle l'avait vu à la lumière d'une lampe bien avant toutes les guerres, bien avant la désolation de la gloire et l'exil de la désillusion. Par cette aube lointaine où il s'en vint jusqu'à sa chambre donner un ordre pour la première fois de sa vie. L'ordre qu'on lui fit l'amour, c'était Pilar Ternera. Il y avait des années de cela, quand elle avait atteint ses 145 ans, elle avait renoncé à la pernicieuse habitude de tenir les comptes de son âge et continué à vivre dans le temps statique et marginal des souvenirs, dans un futur parfaitement révélé et en vigueur, bien au-delà des futurs perturbés par les embûches et les suppositions captieuses des cartes. Depuis cette nuit-là, Aureliano s'était réfugié dans la tendresse et la compatissante compréhension de sa trisaïeule ignorée. Assise dans son fauteuil à bascule en rotin, Elle évoquait le passé, reconstituait la grandeur et l'infortune de la famille et la splendeur de Macondo réduite à néant. Cependant, Calvaro effrayait les caïmans de ses fracassants éclats de rire, qu'Alfonso inventait une truculente histoire de Butor, lesquels avaient arraché à coups de bec les yeux de quatre clients qui s'étaient mal conduits la semaine passée, et que Gabriel était dans la chambre de la mulâtresse, perdue dans ses pensées, qui ne faisait pas payer l'amour en espèces sonnantes, mais en lettres pour quelques fiancés contrebandiers qui étaient gardés prisonniers sur l'autre rive de l'Orénoque, parce que les gardes-frontières lui avaient donné une purge et l'avaient fait asseoir sur un pot de chambre qu'il laissa plein de merde avec des diamants. Cet authentique bordel, avec sa tenancière maternelle, était le monde dont Aureliano avait peuplé ses rêves durant sa longue captivité. Il se sentait si bien, si proche de l'accord parfait, qu'il ne songea point à chercher refuge ailleurs l'après-midi où Amaranta Ursula mit toutes ses illusions en miettes. Il y allait dans l'intention de se soulager avec des mots pour que quelqu'un desserrât les nœuds qui lui oppressaient la poitrine, mais il ne parvint à se libérer qu'en laissant couler de chaudes larmes réparatrices dans le giron de Pilar Ternera. Elle le laissa finir, lui grattant la tête avec le bout des doigts, et sans qu'il lui eût révélé que c'était l'amour qu'il pleurait, elle reconnut sur le champ les plus anciennes larmes de l'histoire de l'humanité. « Bon, mon tout petit, » fit-elle en le consolant, « à présent, dis-moi de qui il s'agit. » Quand Aureliano le lui eut dit, Pilar Ternera émit un rire intérieur, son ancien rire si expansif ayant fini par ressembler à un roucoulement de colombe. Il n'y avait dans le cœur d'un Buendia nul mystère qu'elle ne pût pénétrer, dans la mesure où un siècle de cartes et d'expériences lui avait appris que l'histoire de la famille n'était qu'un engrenage d'inévitable répétition, une roue tournante qui aurait continué à faire des tours jusqu'à l'éternité n'eût été l'usure progressive et irrémédiable de son axe. « Ne t'en fais pas, » lui dit-elle avec un sourire. « Où qu'elle se trouve en ce moment, elle est en train de t'attendre. » Il était 4h30 de l'après-midi quand Amaranta Ursula sortit du bain. Aureliano la vit passer devant sa chambre dans un peignoir aux plis ténus, une serviette enroulée autour de la tête comme un turban. Il la suivit presque sur la pointe des pieds, son ébriété le faisant chanceler, et pénétra dans la chambre nuptiale au moment où elle ouvrait son peignoir, qu'elle referma épouvantée. Elle fit un signe discret en direction de la chambre contiguë, dont la porte était entrouverte, et où Aureliano savait que Gaston s'était mis à écrire une lettre. « Va-t'en !» lui dit-elle, en remuant seulement les lèvres. Aureliano sourit, la prit à deux mains par la taille, la souleva comme un pot de bégonia et la fit tomber à la renverse sur le lit. D'une secousse brutale, il la dépouilla de son peignoir de bain avant qu'elle n'eût eu le temps de l'en empêcher et se pencha sur l'abîme d'une nudité fraîchement lavée dont il n'était pas une nuance de peau, pas une moirure de duvet, pas un grain de beauté dissimulé qu'il n'eût imaginé dans les ténèbres d'autres chambres. Amaranta Ursula se défendait avec sincérité, usant de ruses de femelle experte, embelettant davantage son fuyant et flexible et parfumé corps de belette, tout en essayant de lui couper les reins avec les genoux et de lui scorpionner la figure avec les ongles. Mais ni lui ni elle ne laissait échapper un soupir qu'on eût pu confondre avec la respiration de quelqu'un qui eût contemplé le frugal crépuscule d'avril par la fenêtre ouverte. C'était un combat féroce, une lutte à mort qui paraissait pourtant dénuée de toute violence, parce qu'elle était faite d'attaques contorsionnées et de dérobades décomposées, ralenties, côteleuses, solennelles, de sorte qu'entre les unes et les autres, les pétunias avaient le temps de refleurir et Gaston celui d'oublier ses rêves d'aéronautique dans la chambre voisine, comme s'il se fût agi de deux amants ennemis essayant de se réconcilier au fond d'un aquarium diaphane. Dans le grondement de ce corps à corps, acharné et plein de cérémonie, Amaranta Ursula comprit que tout le soin qu'elle mettait à garder le silence était tellement absurde qu'il aurait pu éveiller les soupçons de son mari à côté bien plus que le vacarme guerrier qu'ils essayaient d'éviter. Alors elle se mit à rire les lèvres serrées sans renoncer à la lutte, mais se défendant par de feintes morsures et en débelettant peu à peu son corps, jusqu'à ce qu'ensemble, ils eussent conscience d'être tout à la fois adversaires et complices. Et cette mêlée dégénéra en ébat conventionnel, et les attaques se firent caresses. Brusquement, presque en jouant comme une espièglerie de plus, Amaranta Ursula négligea de se défendre, et lorsqu'elle voulut réagir, effrayée par ce qu'elle-même avait rendu possible, il était déjà trop tard. Un choc énorme l'immobilisa en son centre de gravité, l'ensemença sur place, et sa volonté défensive fut réduite à rien par l'irrésistible appétit de connaître quels étaient ses sifflements orangés et ses sphères invisibles qui l'attendaient de l'autre côté de la mort. À peine eut-elle le temps de tendre la main, de chercher à tâtons la serviette de toilette et de se la mettre entre les dents comme un bâillon pour empêcher que ne sortissent les petits miaulements de chatte qui étaient déjà en train de lui déchirer les entrailles.